Je crois à l'influence immense des images.
On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit « Mais le son, ça m'intéresse. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. »
Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole.
Il y a des filles à la régie, à l'administration.
Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Donc là, on ouvre une nouvelle page de cette histoire.
Notre silence ne nous protégera pas. Eh ben, j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Merci beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Sorociné, le podcast de cinéma féministe. Je suis Léon Catan, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la troisième édition du Focus, qui est, je le rappelle, un épisode additionnel de Sorociné, où nous débattons entre collègues d'une sortie salle ou plateforme qui nous a interpellés. Le tout dans un format plus court. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Diane Lestage.
Bonjour.
Lisa Durand.
Bonjour.
Et Victoria Fabi.
Bonjour.
Pour parler du film HLM Pussy de Nora El Ourche avec Léa Aubert, Medina Diarra et Salma Takaline en salle depuis le 6 mars 2024.
T'as guetté les meufs derrière ou pas ?
Princesse Yasmine, t'as Instagram ? T'es grave belle.
Et toi, t'es Aladdin et tu vas les faire sur le tapis, vous allez voler.
Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es comme ça ?
Zach, il m'a bloqué dans la salle de bain et il m'a embrassé sur la bouche.
On peut pas laisser passer ça ? On n'a qu'à le filmer, il n'y a jamais de preuves. C'est pour ça que la justice, elle se fait pas.
Passe la nuit avec moi. Tu verras, je te mens pas, je vais prendre soin de toi, je te jure. Je vais faire l'amour comme un ouf.
Don't mess with my HLM pussy.
On se fait pas justice soi-même.
Faire quoi alors ? Attendre que la justice se fasse toute seule ?
Mais je crois que t'as pas conscience de ce que tu viens de faire.
Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris, grosse folle ?
Je voulais juste aider Zineb.
Je t'irai demander, moi.
Supprimer ta putain de vidéo.
On peut pas abandonner. Si je la supprime, ils gagnent tous.
Y a pas de révolution sans prise de risque, sans violence, sans victime, c'est comme ça.
Révolution de merde, ouais.
Ce qui est parfois difficile à trouver dans les films engagés, c'est la capacité à intégrer leurs idéaux dans une histoire qui les dépasse, sans pour autant les oublier. Nora El Ourche va plus loin et en propose plusieurs des histoires. Alors Victoria, cette phrase vient de ta critique de HLM Pussy, à lire dans son intégralité sur le site de Sorociné. Avant toute chose, j'ai donc une question pour toi. C'est quoi l'histoire de Nora El Ourche ?
Alors Nora El Ourche, c'est une réalisatrice française qui a grandi à Angers. Mais pour parler de ce qui semble véritablement la définir, sans trop lui poser de questions identitaires qui lui appartiennent, elle est une personne autodidacte. Elle travaille de manière instinctive, comme elle le confie au micro de RTL. Et c'est en lisant qu'elle apprend à peaufiner ses scénarios. Alors non, cette histoire n'est pas une ode à la méritocratie républicaine, mais bien au contraire, une manière de marquer le chemin sinueux d'une cinéaste qui a dû se battre de longues années pour faire accepter à des productrices qu'un baiser est une agression sexuelle. Et c'est le point de départ de son premier long métrage plein de vitalité, HLM Pussy. Tout commence lorsque Zaineb est agressée par Zach, l'ami de son grand frère, qui l'embrasse de force à une fête d'anniversaire. Les trois amis ont alors l'idée de le piéger en vidéo pour récolter des preuves, si souvent absentes lors des procès. Si Djenneba et Zaineb n'avaient pas anticipé qu'Amina posterait la vidéo sur Internet, Amina, elle, n'avait pas imaginé l'ampleur de la révolution HLM Pussy qu'elle allait initier. C'est donc l'histoire d'une révolution portée par l'hymne féministe sud-américain « Et le violeur, c'est toi », dont Amina, Djenneba et Zaineb en seront bientôt les soldates.
Donc si je te suis bien, Victoria, HLM Pussy peut s'apparenter à ce que le critique de cinéma Thierry Jousse appelait le film « banlieue » dans un article des Cahiers du cinéma qui date de 1995. Le fait de filmer en banlieue n'était pas nouveau à cette époque, parce qu'avant ça, dans les années 60, il y avait eu, entre autres, « Terrain vague » de Marcel Carné, « L'amour existe » de Maurice Pialat, ou encore le film de Mehdi Sharef, « Le thé au harem d'Archimède » en 1985. Mais c'est avec la sortie de La haine de Mathieu Kassovitz dans les années 90 qu'on a pu assister à l'émergence d'un discours sur le cinéma de banlieue, en écho avec l'actualité, bien sûr. C'est un terme qui a beaucoup été critiqué depuis, parce qu'il a tendance à mettre dans le même sac plein de films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est qu'il se passe extramuros, et aussi parce qu'il a souvent été employé par des gens qui sont bien loin de la réalité des populations qui y vivent. Mais je dirais quand même qu'il existe un cinéma de banlieue, c'est-à-dire un ensemble de films qui mobilisent un imaginaire collectif. Pour vous dire, le réalisateur Olivier Babinet parle carrément de terrain mythologique. Les sujets sont à peu près toujours les mêmes. Donc il va y avoir la pauvreté, le racisme, l'extrémisme religieux, la violence des jeunes, et de plus en plus des violences policières et du patriarcat, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Le film banlieue mobilise aussi toujours un peu le même type de personnages. Pour les femmes, ça va être par exemple la mère Courage, la femme voilée, oppressée par sa famille, et l'adolescente. Si vous voulez un exemple qui illustre ce que je viens de dire, vous pouvez aller voir Bande de filles de Céline Sciamma, qui cumule absolument tous les éléments que je viens de donner et qui a déclaré à des journalistes américains, il me semble, que c'était pas vraiment le film qu'elle assumait le plus dans sa filmographie, notamment suite à des mauvais retours, en fait, mais de personnes directement concernées par le sujet.
Bah moi, je trouve ça un peu dommage que Céline Sciamma ruine son propre film, parce que on le voit, Bande de filles, comme s'il était complètement déconnecté de la logique de sa filmographie. Je trouve que c'est faux, parce que dès Naissance de pieuvre, avec Tomboy, et même avec Petite Maman, en fait, Céline Sciamma, elle a toujours filmé la banlieue. C'est juste qu'avec Bande de filles, elle filme la banlieue. Un autre point de vue à une autre classe de personnes et de personnages. Mais elle a toujours filmé la banlieue. Tomboy, c'est Noisiel. Petite Maman, c'est Sargy Pontoise. Donc, c'est pas quelque chose de... Moi, je trouve ça dommage qu'elle renie ce film. Et moi, c'est un film que j'ai vu. Je suis montée sur Paris pour faire mes études au début des années 2010. Il sort en 2014. Et quand je voyais les visages de Assassila, de Kharidja Touré, de Marietou Touré et de Lindsay Caramo qui me regardaient les yeux dans les yeux, et c'est vraiment cette affiche avec ces quatre comédiennes noires qui te fixent, bah pour une fois, j'avais l'impression que le cinéma français, il avait envie de regarder les jeunes filles noires, les jeunes filles métisses, enfin les jeunes filles racisées en tout cas, et moi c'est un film qui m'a fait beaucoup de bien, et en effet la deuxième partie elle est catastrophique, mais tout n'est pas acheté dans ce film, et j'en ai un peu marre qu'on le fasse passer sous les roues du camion à chaque fois, quoi. C'est un peu, je trouve ça dommage que Céline Sciamma ait un peu cédé à la pression ambiante et qu'elle renie ce film là quoi.
Alors justement, ce qu'elle avait dit, c'était donc dans une interview pour le New Yorker: pour moi, c'est très simple. Si des gens que vous considérez comme des alliés politiques vous disent « cela n'est pas la révolution, cela la ralentit », alors ils ont raison. C'est tout. Diane, tu voulais rebondir.
Oui, non. Enfin, après, j'entends ce que tu veux dire sur Bande de films, et je pense que du coup, le problème, il est ailleurs, et notamment dans ce que tu disais au début sur le terme banlieue, en fait. Sur le fait qu'on assimile banlieue à cité défavorisée, misérabilisme, tous ces problèmes-là. Et qu'on assimile le mot banlieue à ça, alors qu'en fait la banlieue, c'est juste ce qu'il y a autour d'une ville, d'une mégalopole. Enfin, et du coup, par exemple, Virgin Suicide aux États-Unis est autant un film de banlieue que La Haine.
Oui,
en France, La Nuit du 12 est un film de banlieue, parce que ça se passe dans la banlieue de Grenoble, c'est une banlieue pavillonnaire en France. Donc en fait, on a un problème avec ce terme banlieue. On met dans une sorte de sac des films, en fait, qui se passent en cité avec une mauvaise image, une sorte d'exotisation de la cité qu'on n'a pas et qu'on ne connaît pas.
Oui, en fait, on considère vraiment toujours dans cette logique d'associer la banlieue à la pauvreté. Au cinéma, il va aussi y avoir cette idée que c'est une sorte de micro-société dans la société, avec ses propres règles, ses propres codes, etc. On appelle souvent ça les territoires que la République elle a abandonnés. Donc voilà, comme si c'était une espèce de péninsule. Et du coup, on va dépeindre des forces patriarcales en vigueur qui vont vraiment être considérée comme spécifique à la banlieue, donc l'influence de la religion, comme je l'ai dit tout à l'heure, celle des grands frères, des dealers, etc. Et dans HLM Pussy, ce qui est intéressant, c'est que les violences sexistes et sexuelles, comme tu le disais, Victoria, sont décloisonnées, puisqu'on voit aussi que ça existe en dehors des banlieues et partout dans le monde, et que de fait, des convergences sont possibles. Il y a des victimes, des militantes partout. C'est quelque chose qui t'a marqué aussi, Diane ?
Oui, je dirais que c'est un peu le point fort du film de Nora El Hirsch. C'est d'avoir réussi à ancrer son film aujourd'hui dans un féminisme d'une génération qui est la génération, parce que c'est ces filles-là qui sont des collégiennes aujourd'hui, donc étaient enfants quand MeToo a été lancé. Donc elles sont de la génération MeToo, post-MeToo, de la génération même hashtag MeToo, donc avec l'influence des réseaux sociaux. À la fois, elles nous ancrent dans MeToo, dans des jeunes qui ont la notion du consentement, qui ont grandi du coup avec le mot consentement que nous, on n'avait pas. Et aussi dans dans les quartiers populaires. Et ça, c'était quelque chose dont on n'avait pas encore fait, à ma connaissance, le fait d'intégrer le féminisme dans les quartiers populaires chez des jeunes. Ça montre aussi un problème assez intéressant, qui est le fait d'être égal face au féminisme.
Oui, et cette différence de classe, elle est aussi représentée par le personnage d'Amina, qui est, on le comprend, la plus privilégiée du lot, parce que son père est un transfuge de classe.
Oui, tout à fait. En fait, son père est d'origine marocaine et arrivé en France, ça se sent assez jeune. Il a fait tout pour en fait arriver à un statut social, à acquérir ce statut-là et sa place dans la société. Et en même temps, il a voulu protéger sa fille. Il est marié à une femme blanche qui, elle, est avocate des droits des femmes. Et donc, Amina grandit dans un milieu bourgeois, mais tout en côtoyant et en grandissant avec ses copines qui, elles, vivent plutôt en cité. Et donc, avec une notion du féminisme qui n'est pas la même, puisqu'effectivement, Djenebah et Zineb, elles ont d'autres soucis avant. C'est-à-dire que le féminisme arrive en dernier dans les combats qu'une jeune fille peut avoir à ce moment-là, entre la pauvreté, le racisme, la mise de côté, etc. Donc, et ça, c'est important de savoir qu'on n'est pas tous égaux face au patriarcat et aux violences sexistes et sexuelles.
Oui, c'est par exemple un petit peu abordé dans une scène à l'école, où justement ça commence à partir en débat sur la classe à propos de la hiérarchie des oppressions. Scène que j'ai trouvée un petit peu maladroite parce que c'était très didactique en fait dans le propos. Après, est-ce que c'est didactique parce que c'est nécessaire aussi? C'est une question qu'on peut se poser.
Oui, c'est vrai que c'est une scène un petit peu fourre-tout. Qui a le plus souffert? Est-ce que les Noirs et ceux venus d'Afrique parce qu'ils ont vécu la colonisation, l'esclavage? Est-ce que les Juifs parce qu'ils ont vécu la Shoah? Est-ce que les gens d'Afrique du Nord parce qu'ils ont aussi vécu la colonisation et pour certains la guerre d'Algérie? Oui, c'est une scène qui est un peu... Mais le film a des fragilités quand même. Hein, il faut, oui. On ne l'a peut-être pas dit, mais le film sur ces sujets a quelques fragilités. Mais je trouve que c'est un film qui ose beaucoup et qui est très à l'aise quand même avec certains termes, notamment cette étude des classes. Enfin, moi, c'était un film et on parlait de ce que c'est le film de banlieue. C'est un film qui, pour le coup, fantasme pas du tout ça. Et l'endroit qu'il filme, il est exactement au bon endroit. Les personnages savent qu'ils sont au bon endroit et ils s'autocritiquent même par rapport à leur classe. Djenebah, moi, qui je trouve que est un personnage formidable, quand elle remballe sa copine et qu'elle lui dit, mais en fait, on s'en fout de tes grands mots, ton féminisme et tout. Nous, on est en train de crever, quoi. Donc, c'est pas, comme tu disais, c'est pas nos premières préoccupations. Donc pour une fois, moi, quand j'ai vu ça, j'étais assez réjouie de ce film qui avait vraiment cette conscience de classe, qui est très rare dans le cinéma français, qui est quand même un cinéma très bourgeois.
Par rapport à ce baiser forcé dont tu parles, Victoria, la scène de l'agression, enfin, il y a énormément de choses à dire sur les scènes d'agression sexuelle au cinéma. Je vois tout le monde hocher la tête autour de la table. Il y a un plan qui m'a marquée, c'est celui des ongles, de la main, en fait, qui se crispent. Parce que, justement, c'est un petit peu ces petits détails qui reviennent dans le stress post-traumatique, en fait. Ça va être ce genre de choses extrêmement triviales, d'une certaine manière, qui réussissent parfois à mieux montrer les effets d'une agression que des choses beaucoup plus conventionnelles, en fait. Typiquement, une scène d'une personne qui pleure sous la douche avec ses vêtements. Enfin, un truc qu'on voit un peu moins aujourd'hui, je trouve. Mais par exemple, Despentes y avait consacré tout un passage dans King Kong Theory, parce qu'à une époque, c'était vraiment, on voyait que ça, quoi. Victoria ?
J'ai trouvé qu'en fait, c'était une vision de l'agression sexuelle qui n'était pas commune. Dans le sens où ça ne montrait pas un moment, mais ça montrait un espèce d'intervalle où l'espace-temps est modifié. Alors, en cela, il y avait deux moments qui ont vraiment été intéressants, je trouve. Déjà, je trouve qu'au début du film, il y a toute une tension qui monte. Et en fait, c'est comme si, quelque part, l'agression n'était pas arrivée, mais elle était déjà là. Et je trouve que, du coup, ça renvoie à cette thématique du proche qui est agresseur, parce qu'en fait, donc ce proche ne s'est toujours pas montré comme tel, mais c'est des choses qu'on peut ressentir. Et je trouve qu'en ça... Je sais pas comment dire, mais c'était purement sensible, en fait. Hein.
Bah, en plus, c'est vrai, parce que statistiquement, les agressions sont plus à même d'intervenir de la part de proches que d'inconnus fous qui sortent des buissons.
Oui, exactement. Du coup, c'est en cela que je trouve que la vision de l'agression n'est vraiment pas manichéenne, que ce soit, du coup, juste en termes de réalisme par rapport à ce qu'on vient de dire, ou même politiquement. Et du coup, le deuxième moment que j'ai trouvé intéressant, c'était... c'est très simple, pourtant, comme mise en scène, mais j'ai trouvé ça très fort, c'est quand en fait, donc il y a Zach et Zaineb qui sont dans la cuisine et le frère de Zaineb, et que le frère de Zaineb s'en va. Et en fait, il y a un plan du coup sur le miroir où on voit le frère de Zaineb qui éteint les lumières, ferme les portes et en fait, sans le vouloir, laisse sa sœur avec cet agresseur. Et en fait, je trouve que ça rejoint du coup totalement cette idée d'intervalle qui, quelque part, enfin, je sais pas, mais de cet espace-temps qui se modifie. Et enfin, voilà, j'ai trouvé ça fort.
Diane ?
Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur ces scènes en particulier d'agression et la manière dont elle les traite. Par contre, le personnage, dans toutes les autres scènes, je le trouve pas du tout crédible dans...
Celui de l'agresseur ?
Ouais, je le trouve pas du tout crédible dans ce rôle-là. Je trouve que justement, c'est une sorte de petit bad boy de pacotille. Mais... Je sais pas, je trouve que c'est pas assez subtil ce côté de l'agression du proche. Du coup, ça marche bien pour les scènes d'agression. Ça donne effectivement ce côté réaliste et en même temps, avec les flashs qu'elle a, et comme tu parlais, les ongles, etc., c'est un truc qui est assez fort et qu'on vit vraiment avec le personnage de cinéma.
Oui, je trouve que c'était pas forcément le plus judicieux de mettre une espèce de sous-intrigue avec la drogue qui, en plus de ça, est très évacuée. Lisa, qu'est-ce que tu en penses ?
Bah moi, je suis pas vraiment d'accord parce que, en effet, je trouve que le personnage aurait mérité d'un peu plus d'écriture. Ça, c'est vrai. Mais cette sous-intrigue du trafic de drogue et du grand frère et tout, c'est aussi... On parlait du système de domination et du système patriarcal, ça en fait partie. Moi, je pense que Zach, c'est un agresseur, mais c'est aussi un jeune homme qui reproduit une violence patriarcale qu'il a assimilée, en fait. Et il se comporte juste comme ses autres grands frères.
Non, mais je suis d'accord avec ça. C'est juste plus au niveau du jeu d'acteur, en fait, et de la construction du personnage qui, parfois, est représenté un peu comme... Enfin, je sais pas, Walter White, et ensuite, après, tu captes que c'est un petit collégien qui zone en scooter devant l'école.
Oui, c'est ça. Il fait un peu le parrain du quartier. C'est un peu étrange, la manière dont c'est traité.
Et le truc, c'est que lui, il se voit probablement comme ça. Mais du coup, en fait, le film devrait pas le voir comme ça. Le film devrait mettre de la distance. Et j'aurais trouvé ça intéressant, justement, de montrer que... Il renvoie une image, mais c'est pas forcément ce qu'il renvoie dans la réalité, en fait.
Du coup, on n'a pas beaucoup parlé de la scène d'ouverture du film qui est assez géniale là-dessus. Et là, pour le coup, du coup, on a ces deux mecs qui font les caïds au kebab et qui, eux, pour le coup,
oui, c'est vrai,
se prennent vraiment pour des caïds et qui, le film, du coup, montre totalement qu'ils projettent pas cette image, mais eux, ils croient. Enfin, ils ont cette perception-là. Et après, en plus, ils sont un peu vulgaires, ils sont hyper mal assis, ils font pas mal de bruit et ils viennent importuner cette bande de filles qui avait rien demandé, qui était en train de manger son kebab et ses frites tranquille. Et là, ça part en live. Et du coup, moi, je trouve que le personnage de Zach, je pense qu'il est vraiment écrit sciemment, c'est juste qu'il est un peu chargé, quoi.
Victoria ?
Oui, aussi, je sais pas ce que vous en avez pensé de la fin, mais je l'ai trouvée assez intéressante, notamment quand Zaineb rejoint du coup le groupe de filles après avoir subi une seconde agression, où il y a quelque chose dans son regard qui montre qu'on n'a pas accès à tout. Et en fait, donc juste pour expliquer, juste avant, il y a eu la scène, une seconde scène d'agression coup par Zach une seconde fois, et en fait elle lui dit non. Mais en fait, j'ai l'impression qu'avec cette scène où son regard est très perturbant, quelque part la réalisatrice nous dit que elle aurait pu réussir à dire non, et elle aurait pu aussi ne pas réussir à le dire. Et je trouve que cette scène en ça, elle est très intéressante.
Et je suis d'accord, mais j'ai aimé que simultanément, ça se passe pendant que les deux autres sont en manifestation, pour montrer qu'en fait, chacune a sa révolution, en fait. Pour certaines, ça va être le fait justement de... La réappropriation va passer par le fait d'aller en manifestation. Enfin, en tout cas, à ce stade de leur vie et de leur stade de déconstruction, entre guillemets, d'éducation féministe, ça va être une libération de manifester. Mais pour certaines, en fait, il n'y a pas de petite victoire. Et ça va être plus important qu'une manifestation de juste réussir à repousser son agresseur et de lui dire non. Lisa ?
Moi, je trouve que cette scène, c'est un gros, gros défaut de mise en scène. Je suis vraiment désolée. Monter une agression avec une autre scène de manifestation, et oui, en fait, en effet, elle se réapproprie la rue la nuit. La monter comme ça, en montage alterné, et créer du suspense sur une potentielle autre agression, moi, je trouve ça insupportable, en fait. Vraiment, ça m'a sorti à chaque fois. Elle cutait sur cette scène de rue avec les trois autres adolescentes, et elle revenait sur Zineb et Zach de leur côté. Et moi, elle a créé une tension que j'ai trouvé ça vraiment... vraiment insupportable parce que c'était utiliser le langage cinématographique du montage pour créer du suspense sur une agression. Je trouve ça pas possible. Enfin, pour moi, c'est une vraie fragilité du film.
Personnellement, j'ai pas trouvé que c'était du suspense, mais plus de la tension, mais dans l'intériorité du personnage qui se dit est-ce que je vais réussir à dire non.
Ouais, mais moi je trouve que le procédé utilisé est pas le bon pour le coup.
Que c'est pas assez clair.
Ouais, j'aime pas ce que ça. Cette lecture me déplaît vraiment.
J'ai trouvé ça aussi très intéressant ce que tu dis, Léon, mais j'ai pas ressenti comme ça. J'ai ressenti aussi quelque part que cette scène d'altercation de plan, voilà. En fait, c'était aussi pour montrer le décalage politique, c'est-à-dire que quelque part, il y en a qui sont dans les idées, dans la théorie, et c'est aussi très important. Mais du coup, il y a aussi comment ça se passe en pratique quand on est face à une personne qui ne respecte pas le consentement. Et du coup, je trouvais ça intéressant finalement, ces scènes.
Ah mais oui, non mais il y a une vraie maîtrise sur tous les personnages. Moi, comme je le disais, j'étais vraiment enthousiasmée de voir ces trois jeunes filles, jeunes collégiennes évoluer. Ça change un petit peu de ce qu'on nous a proposé ces dernières années quand même. Surtout, on parlait de la structure, enfin du film banlieue et de la cité, de cette structure comme une structure architecturale, mais on en parle quand même très peu comme une structure de vie. Et là, il y a vraiment, c'est vraiment une structure de vie. Et même quand on voit la famille de Zineb dans son pavillon de banlieue et ses copines dans leur bar de cité, même ça, elle arrive à entrer dans les intérieurs aussi. Et comme l'a fait par exemple, moi j'adore Alice Diop et ce qu'elle fait dans Saint-Omer, qui pour moi, peut rentrer dans le film de banlieue, elle arrive à rentrer dans des intérieurs qu'on a l'impression de connaître parce qu'il y a tout un pan d'un cinéma qui nous a montré ces intérieurs, mais qu'on n'a jamais vraiment vu, qu'on n'a jamais vraiment ressenti. Et elle crée ça. Et sur les espèces de prédation aussi, quand même, elle crée une espèce de géométrie comme ça, où il y a cette scène, un moment où Zach les harcèle pour qu'elles effacent la vidéo de lui, et il rentre dans leur collège et il suit Amina, elle va s'enfermer dans les toilettes, et il y a ce truc où lui, il arrive à grimper à travers les murs, il fait pareil chez Zineb, il grimpe à travers son balcon, enfin il y a toute une structure comme ça, architecturelle, qu'elle crée dans son film, et je trouve ça assez, pour un premier film, comme tu disais Diane, je trouve ça vraiment très maîtrisé. Quoi.
Après, pour moi, il y a quand même un petit défaut dans la représentation de ce trio. Personnellement, je n'ai pas aimé le personnage de Geneba parce que j'ai trouvé que c'était peut-être la moins développée de toutes. Je trouve que ça souscrit encore beaucoup à ce cliché justement de la banlieusarde noire un peu... typiquement beaucoup de personnages d'Assassila qui vont être les plus grandes gueules, les plus rentres dedans, avec les meilleurs punchlines, etc., et qui en plus j'ai trouvé fonctionnait peut-être pas toujours parce que des fois elles étaient un peu trop écrites peut-être pour fonctionner à l'oral, et en plus de ça en fait j'ai juste pas vraiment compris son arc narratif. Déjà j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle était aussi aussi virulente envers Amina parce qu'Amina a parlé. En fait je veux dire, dans l'idée je peux voir les raisons qui l'amènent à ça, mais je trouve que c'était pas non plus assez clair. Pourquoi est-ce que c'est elle qui le vit le plus mal ? J'ai trouvé aussi que l'évolution de sa pensée était pas hyper claire, dans le sens où t'as Zach qui va détruire toutes ses affaires, tout son matériel, etc. Du coup, elle a peur. Et tout d'un coup, elle switch et elle décide de participer à la manif, etc. J'ai trouvé ça peut-être un peu évacué trop rapidement.
Après, moi, je suis pas d'accord. Geneba, c'est un personnage que je trouve... elle me fait penser à beaucoup de mes petites cousines qui, ont 16 ans, veulent un peu devenir influenceuses, adorent écouter la musique d'Aya Nakamura parce que c'est quand même de la culture populaire et tout. Moi, c'est pas un personnage qui me paraît trop écrit, trop sur le côté. C'est vrai que, forcément, elle pâtit du fait que Zineb prend une place centrale parce que c'est elle qui est agressée, que Amina, elle, a des combats qui sont quand même plus affirmés que les siens, mais moi je la trouve pas du tout délirante. Et Geneva, je trouve qu'elle a quand même un rapport aussi quand même très brut, elle se laisse jamais câliner, et je trouve pas qu'elle fasse tant volte-face, ça reste une adolescente, et même quand il rentre chez lui, qu'il détruit son matériel, et il y a ce plan qui m'a glacé le sang, où il la menace avec un couteau, un de ses acolytes là, à Zach, et après avoir tout détruit chez elle, il arrive, et en avant de partir il lui retire sa perruque.
Elle est horrible cette scène.
Et il lui enlève comme ça ce signe de féminité, de qu'elle a avait aussi. Et de pouvoir, bien sûr, qu'elle s'était appropriée, qu'elle avait gagné, et cet idéal que représente l'influence, un avenir meilleur, mais tout en restant, le film, on l'a pas dit, mais il a été tourné dans la banlieue de Sens, qui est une ville qui est en Bourgogne-Franche-Comté, et jamais Djenneba, elle a pas des envies de monter à Paris, elle a pas des envies de partir comme Amina, de s'évader là où elle a grandi, c'est chez elle, et elle y est plutôt bien, elle a juste envie d'une ascension sociale un peu meilleure, de mieux gagner sa vie, elle a un peu, oui, des rêves d'influenceuse et de télé-réalité, mais ces personnages-là existent, quoi.
Alors, c'est pas tant que je ne la trouve pas crédible, c'est juste l'impression qu'il y a vraiment une surreprésentation de ce type de personnage dans le cinéma banlieue. Et justement, d'ailleurs, c'est quelque chose dont beaucoup d'actrices du cinéma français se sont plaintes, du fait que parce qu'elles étaient foncées, en fait, elles trouvaient pas de rôle de jeune femme douce, etc. Fallait toujours qu'elles jouent les grandes gueules.
Je trouve que Noraëlle Hourche, quand même, elle fait quand même quelque chose d'autre, même avec le personnage de Zineb, qui est un peu ce personnage de jeune fille française d'origine maghrébine, qui est très doux, qui se laisse faire, qui machin et tout. Elle arrive quand même à décaler un peu le regard. Ces trois personnages-là, je trouve qu'elles sont pas traitées comme dans le reste de ce type de production. Par exemple, Léon, tu parlais d'une comédienne, moi que j'aime bien, Assassila, qui tu trouves a tendance à jouer un petit peu ce rôle-là dans ce type de film, de façon assez récurrente.
Pour précision, Assassila, du coup, elle a joué dans Bande de filles, mais c'est également un personnage principal dans la version française de Scam. Peut-être que.
Oui, elle joue Iman.
Oui, exactement.
Et puis elle a fait d'autres choses, elle a fait Russ, elle a fait plein de séries. Et il se trouve que Assassila, elle faisait partie du collectif réunie par l'actrice Aïssa Maïga en 2018 quand elle a sorti ce livre collectif qui était Noir n'est pas mon métier, qui était un livre de témoignages de 16 comédiennes du cinéma français, donc noir, qui parlait justement du manque de diversité et du manque de représentation, et aussi du fait qu'on leur proposait que des rôles stéréotypés, et ça allait de quelqu'un comme Firmine Richard, qui est la doyenne du livre, à quelqu'un comme Karidja Touré ou Assassila, qui avait le même âge à l'époque, qui étaient toutes les deux dans Bande de filles. Rien que cette année aussi au César, on a quand même vu que dans toutes les catégories, il n'y avait que des personnes perçues comme blanches, et que même quand les comédiens, comédiennes non blancs sont nommés dans des catégories un peu prometteuses, qui sont les révélations féminines, masculines, ils sont sur la liste des 32, mais ils passent très rarement la sélection des 10 derniers, donc 5 femmes, 5 hommes. Et cette année, c'était quand même criant de vérité. Il y a même l'ADA, qui est l'association des actrices, donc pour la protection des actrices, qui a publié une lettre qui disait, il me semble que c'était formulé comme « Faut-il instaurer un quota ?» pour que vous nous ayez dans vos films. Donc, en plus, c'est une association en son sein. Ils ont de nombreux adhérents. Je pense à Suzy Bemba, qui est une comédienne qui jouait dans Créature de Yorgos Lanthimos, par exemple. Ou je pense à Zita Enro aussi, qui s'est exprimée à ce sujet. Donc, 50-50, ils ont publié une étude qui s'appelle l'étude Cinégalité, qui a été publiée en 2021. Et ils comptaient, en gros, qu'en 2019, il y avait 22% des personnages qui étaient perçus comme non blancs dans le cinéma français. Donc tout le reste, ce sont des personnages perçus comme blancs. Donc dans ces 22 personnages perçus comme non blancs, il y avait 9% qui étaient perçus comme noirs, 9% qui étaient perçus comme arabes, 2% perçus comme asiatiques et 2% perçus comme autres. Bon, sauf que on pourrait pas faire une étude ethnique de
les statistiques étant interdite
en France, mais on est quand même quoi, 60-70 millions en France. 20%, c'est quand même très peu, quoi. Et ils ont fait des statistiques chez les hommes et chez les femmes. Il y a un pourcentage de personnages qui sont dans des situations où, par exemple, ils vont commettre un crime ou ils sont Donc ils ont quand même fait une étude assez poussé sur le type de représentation qu'offre le cinéma français aux personnages perçus comme non blancs.
Justement, je pense que ça ne nous fait que plus apprécier des films comme HLM Pussy, qui, comme on l'a dit, contient des fragilités et peut-être quelques maladresses, mais en tout cas reste un film assez beau, assez bien fait, et qui, je l'espère, pourra peut-être être aussi un outil pédagogique dans les écoles, peut-être des adolescents qui se reconnaîtront plus que dans certains films féministes qui se passent dans des classes sociales plus élevées. Les filles, j'avais une dernière question pour vous avant de conclure cet épisode. Maintenant qu'on a passé tout ça en revue, quel est votre film de banlieusarde préféré ? Lisa, est-ce que tu veux commencer ?
Moi, j'ai pris Fish Tank d'André Arnold. C'est un film que j'ai découvert à l'adolescence. Et c'est sur une jeune fille du coup qui vit dans une banlieue en Angleterre, donc une jeune fille prolétaire blanche, et qui, elle, son rêve, c'est de danser. C'est la danse hip-hop dans mes souvenirs. Et moi, c'était un film qui m'avait fait énormément de bien. Et je trouvais que cette actrice-là, Katie Jarvis, qu'on n'a plus trop revue après, qui faisait beaucoup de télé en Angleterre, était juste incroyable. Et déchirer tout à l'écran. C'est un film qui est compliqué aussi avec la situation parentale qu'elle a, mais je trouvais ce film si lumineux. Voilà, c'est mon coup de cœur. Enfin, c'est mon choix de film de banlieusarde.
Et toi, Diane ?
Du coup, c'est Les Adolescentes dans le film Swagger de Olivier Babinet.
Qu'on citait tout à l'heure.
Film qui était à l'acide et qui est sorti en 2016. Et en fait, donc c'est une sorte de docu-fiction à la fois hyper ancré dans la réalité. Ça se passe notamment à Aulnay-sous-Bois, dans des cités les plus défavorisées en France, en fait. Et à travers ça, donc il interroge une dizaine de jeunes, garçons, filles, et sur leurs espoirs, leurs rêves, ce qu'ils vivent aussi. Enfin, c'est à la fois réaliste et en même temps, t'as envie de partir dans leur imaginaire. On n'a jamais été aussi proche de jeunes et dans leur à travers leur regard vraiment, et c'est assez beau. Et à travers ça aussi, le réalisateur remet en scène certains de leurs rêves. Donc le film part en comédie musicale, un peu en science-fiction, et c'est un très très beau film et qui donne justement une représentation très lumineuse de la banlieue. Et ça, je trouve que ça fait du bien.
Victoria, c'est ton tour.
Oui, alors moi j'ai adoré le film Scheherazade qui se passe à Marseille.
De Jean-Bernard Marlin.
J'ai trouvé que c'était un film vraiment très beau dans la dépiction de la vulnérabilité. Et du coup, je trouve que ça rejoint un peu notre propos sur comme parfois ça peut être cliché des films de banlieue. Et je trouve que là, en l'occurrence, ça l'est pas parce qu'on assiste vraiment à une relation amoureuse qui naît. C'est vraiment très beau. Je vous laisse le découvrir si vous ne le connaissez pas.
Et toi, Léon ?
Alors moi, c'est peut-être pas un choix qui est hyper prévisible, mais c'est It Follows de David Robert Mitchell qui est sorti en 2014. Comme on l'a dit, les banlieues, ce ne sont pas que des territoires pauvres et abandonnés par les pouvoirs publics, ce sont parfois des enclaves bourgeoises. Et justement, dans It Follows, David Robert Mitchell utilise le film de genre pour représenter l'aliénation des adolescents qui sont issus des banlieues pavillonnaires américaines, et en particulier leur rapport à la sexualité, ce que je trouve fascinant et terrifiant à la fois. C'est la fin de cet épisode de Sorociné sur HLM Poussy de Nora El Ourche, en salle depuis le 6 mars 2024. Merci beaucoup d'y avoir participé, les filles.
Merci.
Merci.
Et merci beaucoup à Hugo Cardona pour la réalisation de cet épisode. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être restés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous laisser un gentil commentaire sur Apple Podcast. Nous nous retrouverons au Festival du film de femmes de Créteil, où nous vous parlerons de sport, et dans un autre focus, sur une sortie en salle, Indice. Et si je vous disais, Back to Black. À bientôt.